Alors moi je voudrais vous faire connaissance maintenant avec celui qui va être l'artisan de cette grande libération. Alors, hier on a rencontré Abraham, aujourd'hui je voudrais vous faire rencontrer Moïse devant le buisson ardent. On va vivre ce soir la rencontre. Demain nous irons à la montagne qui est tout embrasée comme le buisson où le peuple tout entier collectivement fait l'expérience qu'a faite Moïse personnellement. Et puis nous verrons ensuite comment cette expérience de la rencontre s'achemine étape par étape jusqu'à Jérusalem. Pas le lieu que Dieu a choisi pour y faire habiter son nom. Les rabbins aiment beaucoup un certain jeu de mots qui ressort assez souvent. Le buisson c'est Séné, qui est Boer Baesh, il est incandescent. Il y a la montagne qui est aussi Boer Baesh, incandescente. Et puis Séné, vous voyez, Sinaï, le jeu de mots. Et de Sinaï, on va à Sion. Et Sion, Jérusalem est appelée à devenir incandescente, elle aussi de la présence de Dieu, à tel point qu'elle va attirer toutes les nations qui marcheront à sa lumière. Et au plan de la signification pour nous chrétiens dans l'Apocalypse, la grande cité Sodome, l'Égypte, on l'appelle symboliquement là où leur Seigneur fut aussi crucifié. Il y a des évocations transhistoriques là, du monde dans lequel nous sommes et dont Jésus a dit « Vous êtes dans le monde et vous n'êtes plus du monde ». Il faut sortir du monde comme l'on fait. Et de toutes les évocations, c'est peut-être l'Égypte qui est la plus parlante, la plus détaillée. Vous savez tous comment les Hébreux sont arrivés en Égypte.
Hein. Mais c'est déjà Joseph.
L'histoire de Joseph. Et tout le monde connaît l'histoire de Joseph, j'en suis sûr. Moi, quand j'étais gosse, j'ai pleuré en écoutant l'histoire de Joseph. Quand elle est bien racontée, c'est assez extraordinaire, cette expérience. Mais pour bien la raconter, il faut la connaître dans tous ses détails, tous les suspenses. Qu'est-ce qui serait capable, parmi le catéchiste, de raconter dans tous ses détails l'histoire de Joseph, l'histoire de David, etc. Alors, Joseph devient le grand vizir du pharaon, il réorganise le pays, mais voilà qu'il se passe que le pharaon est changé par un autre. Et ça pourrait correspondre, d'après les historiens, aux Hyksos là, qui ont régné, puis qui ont été vidés par les pharaons de Haute-Égypte au XVIIe siècle. Allez voir les bouquins, moi j'avoue que je finis par perdre un peu la mémoire de tous ces détails. Alors, toute l'administration que Joseph avait mis au point devient, sous les mains du nouveau pharaon, comme un instrument de servitude. Et voilà les Hébreux qui sont plongés en Égypte, où ils s'étaient beaucoup développés, dans la servitude. Ils étaient féconds, ils s'étaient multipliés, le pays en était rempli, un nouveau roi va en Égypte, il s'inquiète de cette pullulation, et il dit « prenons de sages mesures ». On dirait que ces textes sont étrangement contemporains, enfin, les sages mesures. Pour l'empêcher de s'accroître, sinon en cas de guerre, il grossirait le nombre de nos adversaires. Alors on imposa des chefs de corvée. Ici, il faut savoir qu'il y a un jeu de mots qui est en filigrane dans tout le texte. Servitude, corvée, ça se dit avdout. Et puis, culte de Dieu, c'est avoda. Et un des meilleurs commentaires de l'Exode que je connaisse, c'est de la servitude au service. Avdout, la avoda. C'est en servant Dieu, en se prosternant devant lui, qu'on redevient libre. Et c'est en méconnaissant Dieu qu'on tombe dans les esclavages de la production. Alors, on leur rend la vie amère. Et qu'est-ce qu'on leur fait faire? Vous vous rappelez les briques d'hier? Eh bien, ici, on a le même symbole. J'ai l'impression qu'il y a un langage, là, faire des briques. C'est vraiment le symbole par excellence de la production, de l'esclavage, qui s'oppose aux épanouissements de la fécondité à laquelle Dieu nous appelle, lui qui nous a créé à son image, à sa ressemblance. Alors, on essaie aussi de diminuer les naissances, et le pharaon ordonne de précipiter tous les petits garçons dans le Nil. Mais sa femme ne marche pas, elles craignirent Dieu, elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Le roi d'Égypte les appela et leur dit « Pourquoi avez-vous agi de la sorte et laissé vivre les garçons ?» Elles répondirent à Pharaon « Les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont vigoureuses. » En hébreu c'est « chayot », ce sont des bêtes. Et alors on arrive trop tard, les gosses sont déjà nés. Dieu favorisa les accoucheuses et il les récompensa d'avoir désobéi au Pharaon. Alors le Pharaon est pris à son propre piège et tout le monde connaît l'histoire du petit Moïse là, qui naît et puis que sa mère ne veut pas supprimer, qu'elle met sur une petite arche là. C'est le même mot que l'arche de Noé, c'est curieux. Hein. C'est un mot qui est rare, qui est employé que deux fois. Et la petite arche là, enduite de bitume, flotte sur le Nil et est recueillie par la fille du Pharaon. Et le petit Moïse, qu'on appelle comme ça parce qu'il a été tiré des eaux. Et c'est pas une étymologie fantaisiste là. il y a dans les psaumes, Yamshelim, il m'a tiré des grandes eaux. Alors, Moïse est élevé à la cour du Pharaon. Et il est dit dans la tradition juive, dans les actes des apôtres aussi, qu'il a assimilé toute la sagesse des Égyptiens. Mais alors, devenu adulte, il prend conscience de sa véritable identité. Il voit un Égyptien qui persécute un de ses frères et il tue l'Égyptien. Mais alors, ça, on fait l'expérience partout dans... Quand on part trop vite là, dans ces initiatives violentes, ça va pas loin. Il est simplement traqué par la police du Pharaon et il est obligé de s'exiler. Et où est-ce qu'il s'exile? Eh bien, dans cette terre que vous voyez là-bas. Hein. Par-delà la mer Rouge, la terre de Madian. Et c'est par là que la tradition juive, et Flavius Joseph et Saint Paul aussi, iraient plutôt chercher le Sinaï, la montagne de l'Horeb. Tandis que les traditions chrétiennes ont été cherchées plutôt dans la péninsule sinaïtique. Et puis pendant un certain temps des montagnes se sont fait concurrence, mais on irait plutôt chercher là du côté de Madian qu'on aperçoit là-bas. Alors il arrive près d'un puits. Qu'est-ce qui se passe près des puits dans la Bible?
On va... Les femmes qui vont puiser.
Oui, et puis il y a des histoires d'amour jusqu'à l'histoire de la Samaritaine dans l'évangile de Saint Jean. Les pères de l'église, on a tort de rigoler quand on entend leurs belles homélies sur toutes ces histoires d'amour qui se passent auprès des puits et qui culminent dans la rencontre de Jésus et de la Samaritaine au puits de Sichem. Bon, alors il épouse une des sept filles de ce prêtre de Madian, dont on va faire connaissance demain de plus en plus, et Tsipporor. C'est bien ce nom-là, on va en parler beaucoup aussi. Alors, le roi d'Égypte mourut, les Israélites, gémissant de leur servitude, crièrent, leur appel à l'aide monta vers Dieu du fond de leur servitude, Dieu entendit leur gémissement, Dieu se souvint de son alliance, Dieu vit et Dieu connut. Vous voyez, le paradoxe du Dieu de la Bible, c'est qu'il est tout autre et qu'il est là. Il voit, il entend, il connaît. C'est l'immanence et la transcendance. Je crois que c'est le paradoxe dont nous sommes héritiers et qui s'accomplit dans l'Immanuel, qui est Jésus, qui dans sa personne unit la nature divine et la nature humaine, et tout est immanent et transcendant. Alors cette histoire du buisson ardent, ici on va lire le texte attentivement. Est-ce que vous vous rappelez encore de l'importance du thème voir celui qui nous voit? On l'a posé d'emblée à Jérusalem. Qu'est-ce qu'on vient faire à Jérusalem? Vous vous rappelez encore de ça là, près du Micocoulier? Vous vous rappelez de l'histoire d'Abraham, la terre de Moria et puis la terre que je te montrerai? Vous vous rappelez de l'histoire d'Agar, c'est là-dessus qu'on a terminé hier, le puits du vivant qui me voit. Eh bien ici, vous avez, on va faire un pas de plus dans cette expérience fondamentale qui va se développer jour après jour, tout au long de notre retraite, voir celui qui nous voit. Et l'expérience de la rencontre ici est exprimée d'une façon tout à fait bouleversante. Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. Il l'emmena par-delà le désert et parvint à la montagne de Dieu, l'Horeb. L'ange de Dieu fut vu dans une flamme de feu du milieu d'un buisson. Moïse vit, le buisson était embrasé, mais le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir cette étrange vision. Enfin, j'ai fait exprès de mettre l'accent sur ce mot « ra » qui revient avec une insistance quasi obsédante. Je vais faire un détour pour voir cette étrange vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. Dieu vit qu'il faisait un détour pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. Est-ce que vous sentez ce récit extraordinaire? Moïse est dans le désert, il a quitté la civilisation artificielle de l'Égypte, il est là dans la solitude du désert, il a fait comme un détour, il fait un détour là. On a tous à faire un détour pour être sur la trajectoire de Dieu qui passe. C'est pas que Dieu n'est pas là, hein. Il est partout et on pourrait pas remuer le moindre de notre main, hein. Une fourmi là, on pourrait pas remuer une patte si Dieu ne donnait pas l'existence à chaque instant par une création continue. C'est pas Dieu qui n'est pas là, mais c'est nous qui sommes absents. Nous sommes tous malades, plus ou moins, de cette maladie dont parlait Pascal, le divertissement. On pense à tout, sauf aux choses importantes, et c'est embêtant parce qu'on perd son temps, et à force de perdre son temps, on perd sa vie, on n'en a qu'une. Alors, dans le désert, la voix de Dieu, on aura l'occasion de le remarquer, je la tirerai au désert, je lui parlerai au cœur, dans le prophète Osée. Il y a un jeu de mots entre Midbar, le désert, et puis Dibarti, Dieu qui parle au cœur. Et puis la voix de celui qui crie dans le désert, mais là, ça, c'est un contresens. La voix de celui qui crie, dans le désert, préparez la voix de Dieu. Mais il n'y a pas de doute que dans le désert, on s'interromprait deux secondes et on sera interpellé par le silence. Alors, on est interpellé par Dieu si on fait un détour. Et un détour qui consiste à passer du paraître à l'être. Au fond, on vit tous au plan superficiel du paraître. On joue tous des comédies. Or, Dieu est celui qui est. Et pour être sur la trajectoire de Dieu quand il passe, il faut avoir ce minimum de ressemblance avec lui qui est l'être. Et pour ça, il faut faire un détour. Il faut passer du paraître à l'être. Il faut être ce qu'on est. Si on est ce qu'on est, on est sur la trajectoire de Dieu qui passe et la rencontre se produit. Et ça, on a tous à faire un détour pour ça. Et vous voyez, ce soir, là, on fait comme un petit détour, là, et on est sur la trajectoire de Dieu qui passe. Et Dieu dit, alors j'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu son cri, je connais ses angoisses, je suis descendu pour le délivrer de la main du Saint et le faire monter. Voilà encore une des caractéristiques de Dieu que nous allons observer à travers toutes les étapes de la Bible. Il descend pour nous rencontrer et nous faire monter. Souvent, aux Vêpres, nous disons l'épître aux Philippiens, il n'a pas gardé jalousement son égalité avec Dieu. Il s'est abaissé, il s'est anéanti jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, de telle sorte que tout genou fléchit devant celui qui est Seigneur, Kyrios. Je suis descendu pour le faire monter vers une terre plantureuse. Et je t'envoie pour faire sortir les Israélites. Tu feras sortir mon peuple et vous servirez Dieu sur cette montagne. Alors ici, nous avons assisté ce soir à la rencontre personnelle que Moïse fait de Dieu devant le buisson embrasé. Le buisson se dit Sinaï. Demain, nous allons nous mettre en route vers la montagne du Sinaï, qui est elle aussi embrasée. Et là, nous ferons collectivement l'expérience de la rencontre. Ce sera comme un pèlerinage à nos origines baptismales, parce que l'élection n'a pas disparu. Elle s'est élargie maintenant aux dimensions universelles, mais elle est toujours enracinée dans ces récits grandioses de l'Ancien Testament. J'ai peur d'aborder ici la question du nom de Dieu. Si je peux ajouter encore quelques mots, tenez, c'est que cette route que vous voyez là, pour la grande route, elle a été faite après la guerre des Six Jours, pour mettre en relation rapide Eilat et puis Suez. Mais alors cette route a complètement bousillé une autre petite route qui, elle, est très riche en souvenirs historiques. On trouve là-bas en bas un petit pont d'époque romaine, qui est encore assez fort, pas pour supporter les convois militaires anglais au temps du mandat britannique. C'était la route à l'époque turque, et c'est par là que les pèlerins musulmans partaient vers la Mecque et Médine. Vous voyez, ils traversaient ici la péninsule sinaïtique, ils descendaient du haut plateau vers la plaine côtière, ils prenaient le golfe là-bas en tangence au nord, et puis ensuite ils marchaient jusqu'à la Mecque et à Médine. C'est intéressant aussi de remarquer que nous sommes ici dans les pas de ces caravanes qui sont passées par ce trou là, par ce trou d'aiguille là, que vous voyez là en bas. C'est ce qu'on appelle sur les cartes Darb el-Hajj. Tout le monde sait que Hajj ça veut dire le pèlerin en arabe. Darb, c'est la route Darb el-Hajj. Alors dans la Bible sur le terrain, le mercredi et le jeudi sont deux journées décisives. On a beaucoup roulé jusque maintenant, mais c'est pour pouvoir marcher pendant deux jours dans le désert et méditer au rythme de la marche les textes extraordinaires là, qui sont avant la montagne, autour de la montagne et puis après la montagne dans le livre de l'Exode et des Nombres. Mais d'abord une remarque préliminaire. Je ne sais pas pourquoi on dit mercredi et jeudi. Bon, mercredi, ça fait allusion à Mercure, jeudi à Jupiter, lundi c'est la Lune, mardi c'est Mars, vendredi c'est Vénus, c'est très païen tout ça. Quand on a compris la signification du chapitre 1er de la Genèse, cette structuration du temps là, en fonction du Shabbat, pourquoi est-ce qu'en français on l'a abandonné alors que dans beaucoup d'autres pays, dans beaucoup d'autres cultures, dans beaucoup d'autres langues, on l'a gardé. Et en latin on dit feria prima, feria segunda, feria tertia. Bon, je ne sais pas pourquoi. Et je voudrais qu'on structure aussi le temps. Est-ce que vous savez quel est le plus long texte de l'Ancien Testament qui est cité dans le Nouveau? Il y en a deux qui se font en concurrence. Il y a le fameux texte de Jérémie, on citera longuement sur la Nouvelle Alliance, dans chapitre 31, si je ne me trompe, de Jérémie. Et puis alors, il y en a un autre qui est cité in extenso dans l'Épître aux Hébreux et longuement commenté, et qui nous invite à vivre intensément l'aujourd'hui de Dieu. Et dans la tradition monastique, je crois qu'elle est antérieure même à Saint-Benoît, on commence l'office par là. Il y a toujours des frères qui sont en retard, et alors, il y a un psaume qu'on appelle le psaume invitatoire, et on est invité au début de chaque jour à vivre intensément chaque jour qui nous est proposé à l'écoute de la parole de Dieu. Je vous lis quelques passages du chapitre 3 de l'Épître aux Hébreux. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme à Massa et à Meriva, le jour de la tentation dans le désert. Encouragez-vous chaque jour mutuellement. Vivante est la parole de Dieu, efficace et plus incisive qu'aucun glaive à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles. Elle peut juger des sentiments et des pensées du cœur. Aussi n'y a-t-il pas de créature qui reste invisible devant elle, mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et on a adopté, en harmonie avec cette grande tradition monastique, on commence chaque journée par le psaume du... Nous voilà encore devant ce buisson ardent, et vous vous rappelez ce que Dieu a dit à Moïse, tu feras sortir le peuple de l'Égypte et vous servirez, c'est-à-dire vous allez rendre un culte, vous allez passer de l'esclavage de l'Égypte au culte du Dieu vivant, mais à toute la avoda, de la servitude au service sur cette montagne. Et alors nous allons voir comment on va passer du buisson ardent, ce n'est Boer Ba'esh, à la montagne ardente aussi de feu. Moi je crois naïvement que c'est pas par hasard que les textes sont dans l'ordre où ils se trouvent dans la Bible. On peut évidemment utiliser les méthodes historico-critiques pour voir les différentes couches rédactionnelles, mais je pense que l'Esprit Saint a aussi inspiré cette mise en ordre qui s'est faite dans la tradition et qu'il y a une véritable pédagogie. Et nous allons aller vers cette sainte montagne en suivant simplement l'ordre des chapitres là, du livre de l'Exode. Alors Moïse d'abord dit, je vais trouver les Israélites et je vais leur dire, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, mais s'ils me disent quel est son nom, qu'est-ce que je vais leur dire? Alors le nom c'est quelque chose de très important, je ne sais pas si vous vous rendez compte, rappelez-vous le récit d'Adam dans le paradis terrestre, Dieu constate qu'il est seul, alors il fait tous les animaux de la terre, il les fait défiler devant Adam et puis Adam leur donne des noms et c'est comme ça qu'il affirme son pouvoir de roi sur la création. Et alors à la fin il est toujours tout seul, vous vous rappelez la petite opération chirurgicale à la suite de laquelle surgit Ève, et alors là c'est pas lui qui donne le nom, il dit elle sera appelée Isha, parce qu'elle est la chair de ma chair et les os de mes os, elle sera appelée, mais Dieu lui ne donne pas son nom. Monsieur Chouraki, c'est amusant de voir, il a recensé dans toutes les cultures, toutes les langues comment on traduisait Dieu, et partout on se fait des dieux à notre image, et dans la Bible alors c'est Dieu qui nous a fait à son image et il ne dit pas son nom. Et alors, il dit simplement, je suis ce que je suis. Je suis m'a envoyé. Alors, ce récit est capital. S'ils me disent quel est son nom, je suis celui qui est. Comment traduire rayé à chair rayé? Je suis ce que je suis celui qui suis, je suis ce que je serai. C'est un peu une fin de non-recevoir. C'est-à-dire, tu verras, marche. Et au fur et à mesure que tu mettras un pied devant l'autre dans l'existence, tu découvriras ce que je suis. C'est déjà un peu dans l'évangile. Quand chaque fois que Jésus dit, je suis, ego eimi dans l'évangile, c'est une allusion à ce rayé à chair de l'Exode, je suis le pain, je suis l'eau vive, je suis la voie, la vérité, la vie, je suis. Alors Dieu ne dit pas son nom, on n'aurait pas si sûr sur Dieu s'il disait son nom. Alors la réponse est simplement, je suis, m'a envoyé vers vous. Ayez, m'a envoyé. C'est mon nom pour toujours, c'est ainsi que l'on m'invoquera de génération en génération. Alors le nom de Dieu, on le découvre tout au long de l'existence. Et les Hébreux ne prononcent pas le nom de Dieu. Et moi, à mon avis, c'est du mauvais goût de dire Yahvé, comme certaines éditions en français. Qu'est-ce que c'est ce Biolmancha? D'abord, on ne sait pas si ça correspond exactement à la réalité. La vocalisation, souvent on vocalise, d'où le fameux Jéhovah. Mais les Hébreux disent le lieu ou bien le nom. Ils disent Hachem. Tu vas aller trouver le Pharaon et puis tu vas leur dire... Alors, la vocation de prophète, on marquerait dans la Bible, n'est pas du tout recherchée. Tous les prophètes font tout ce qu'ils peuvent pour échapper à cette mission. Rappelez-vous Jonas, rappelez-vous Jérémie. Il y a qu'Isaïe qui dit envoie-moi. Mais Moïse, ici, n'a pas du tout envie. Enfin bref, je passe, on ne peut pas tout lire. Et Dieu dit à Moïse en Madian, retourne en Égypte, car ils sont morts tous ceux qui cherchaient à te faire périr. Vous voyez pas où ça se trouve dans l'évangile ça?
Ah si, c'est quand Joseph est en Égypte avec Marie et l'enfant. Voilà, et voilà. Le songe de Joseph, tu peux retourner.
Oui, c'est ça. Vous voyez, on peut saisir toute la subtilité qui est dans le prologue de Matthieu, c'est pour ça que je réserve à la fin que si on a tout ça dans la tête au passage. Est-ce qu'il y a un âne dans la fuite en Égypte de l'évangile? Tous les tableaux, il y a un âne.
Oui, il y a toujours un âne.
C'est parce que quand on a une culture biblique, on ne peut pas ne pas penser ici. Moïse prit sa femme et son fils, les fit monter sur un âne et s'en retourna au pays d'Égypte. On ne peut pas comprendre l'évangile de saint Matthieu si on ne voit pas toutes les allusions qu'il y a partout. Matthieu est un scribe, et alors dans sa mémoire surgissent des tas de choses, et à la charnière de l'Ancien et du Nouveau Testament, il fait cet admirable prologue que nous étudierons en détail, tirant de son trésor des choses anciennes et des choses modernes, comme le bon scribe dont parle Jésus dans l'évangile. Alors, laisse partir mon peuple, qu'il célèbre une fête pour moi dans le désert. On en a marre de faire des briques, on aspire à la liberté, et alors on va célébrer une fête dans le désert. Alors le pharaon répond, pourquoi Moïse et Aaron voulez-vous débaucher le peuple de ses travaux? Et la production alors, qu'est-ce qu'elle va devenir? C'est pas nouveau tout ça. Alors le même jour, qu'est-ce qu'on fait? On augmente la production. Vous leur imposerez la même quantité de briques qu'ils fabriquaient hier et avant-hier sans rien trancher. Ce sont des paresseux. C'est pour cela qu'ils crient, allons sacrifier à notre Dieu. Qu'on alourdisse ce travail de ces gens, qu'ils le fassent et ne prêtent plus attention à ces sornettes. Alors les surveillants du du peuple, évidemment, ça retombe sur ceux qui sont chargés d'assurer la production. Terminez votre travail quotidien, comme lorsqu'il y avait de la paille hachée, on frappa les scribes des Israélites, et puis alors ils se plaignent, et la réaction, c'est augmenter la production. Faites des briques, vous êtes des paresseux, c'est pour ça que vous voulez rendre un culte à votre Dieu. Allez travailler. On ne vous donnera pas de paille hachée, on vous livrera la quantité de briques fixée. Alors la situation devient de plus en plus difficile, le peuple se plaint. Moïse peut dire tout ce qu'ils vont, ne l'écoute plus. Ils n'écoutèrent pas Moïse, ils étaient à bout de souffle à cause de leur dure servitude. Il y a une façon de rendre la servitude telle qu'on perd jusqu'au goût même de la liberté. Alors Dieu va faire sortir son peuple d'Égypte, il va faire connaître son nom, c'est comme ça qu'on connaît Dieu, hein, par ce qu'il fait dans l'histoire. Et non seulement son peuple le connaît comme ça, mais toutes les nations du monde, témoins des prodiges et des merveilles que Dieu fait envers son peuple, arrivent à la connaissance de Dieu. Alors je ne vous lis pas toutes les plaies d'Égypte. Alors ils sortirent d'Égypte, ils partirent de Ramsès en direction de Soukhot. Vous voyez, Ramsès, ça évoque tous ces dépôts, tous ces entrepôts, toutes ces grandes villes, toutes ces grandes constructions, toute la civilisation, avec tout ce qu'elle a de tyrannique et souvent d'artificiel. Ils partent de Ramsès en direction de Soukhot. Et Soukhot, ça fait allusion pas justement à la vie dans le précaire. Comme ça, on vit sous les étoiles, on part. Et même, ils partent comme ça dans la hâte. On n'a pas le temps de faire cuire, etc. Toutes les armées de Dieu sortir du pays d'Égypte. Cette nuit dans laquelle Dieu a veillé pour les faire sortir d'Égypte doit être pour tous les Israélites une veille pour le Seigneur dans leur génération. Ce jour-là, Dieu fit sortir les Israélites du pays d'Égypte. Alors on va parler de la sortie d'Égypte, qui est à la base de l'identité de ce peuple élu par l'expérience des merveilles de Dieu. Et puis ensuite, alors on va refaire tous ces récits qui nous mèneront à la Sainte Montagne. Puis à la Sainte Montagne, on lira tous ces récits extraordinaires là qui se passent autour. Et puis ensuite, on lira, en suivant le livre des Nombres surtout, on va faire une lecture comme ça, cursive, des livres de la Bible. C'est la meilleure introduction, à mon avis. Dans cette retraite, on passe en vue toutes les manières que Dieu a de parler aux hommes. Et c'est une chose qu'on trouve assez fréquemment, et dans la tradition juive, et dans la tradition patristique, que le péché a comme un petit peu émoussé la fine pointe de l'intelligence humaine. Enfin, l'intelligence n'est plus capable de se mettre à l'écoute, de comprendre le langage discret que Dieu parle dans la nature, quoique ce langage dans la nature existe toujours. Et alors Dieu parle d'une manière nouvelle, pas pour remédier à cette espèce d'abrutissement, il parle comme en frappant la table. Par des prodiges, par des merveilles. C'est pas sa manière normale de parler. Lui qui est, il n'a pas besoin de paraître. Il y a, je crois, même psychologiquement parlant, il y a, enfin, ceux qui n'ont pas beaucoup de consistance dans l'être font beaucoup de bruit, et ceux qui font beaucoup de bruit souvent n'ont pas beaucoup de consistance dans l'être. Dieu, lui qui est celui qui est, on l'a vu ça hier, et je crois que l'interprétation grecque au fond n'est pas tellement différente de l'interprétation de la langue hébraïque. On, celui qui est. Il y a une espèce de, on ne sent pas pour son inverse, l'être et le paraître. Dieu qui est n'a pas besoin de paraître, et si on ne fait pas le petit détour, si dont on a parlé hier, si on vit au plan du paraître, on risque de dire qu'il n'existe pas, parce que c'est nous qui sommes distraits. Alors, il parle par des prodiges. Oh, si j'avais ici, maintenant j'ai oublié, hein, une vieille fiche que j'ai faite, autant j'écoutais les cours du Père Spic au Solchois, il commentait l'épître aux Corinthiens, et alors, il nous a sorti un texte de Bossuet. Et Bossuet a été chargé un jour de faire un panégyrique de Saint-François d'Assise. Alors, vous voyez, Bossuet, le classicisme, le palais de Versailles, Saint-François d'Assise. Alors, il a pris comme texte, ce texte de l'Épître aux Corinthiens, les hommes ayant refusé de connaître Dieu par la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et alors, il oppose comme deux manières de parler de Dieu. L'un dans la nature, où il y a l'ordre, etc. Il parle un petit peu trop de l'ordre, il pense au palais de Versailles. Quand on a vu les poissons de la mer Rouge, il y a déjà une folie. Dieu fait craquer nos idées déjà dans son cage de la nature. Et puis un deuxième langage, alors, où Dieu dit « Je perdrai la sagesse des sages », et puis commence cette histoire biblique. Ou alors c'est curieux, il y a comme des paradoxes, hein, comme dit Chesterton, des vérités qui marchent sur la tête pour se faire remarquer. Ce sont les femmes vierges qui enfantent, ce sont les puinés qui remplacent les aînés, et puis Dieu marque la liberté pendant le déroulement de son dessein, et ça aboutit à une espèce de... Dieu descend par des démarches insensées, du ciel à la crèche, de la crèche à la croix, de la croix au tombeau et au plus profond des enfers, et puis il rebondit jusqu'au ciel, et il dit que l'homme, maintenant, pas Dieu, veut s'unir à la créature, pas seulement se faire connaître, et que c'est par des démarches insensées qu'on doit répondre à cette parole de Dieu. Et alors il cite le cantique des cantiques, par Kol Dodi, Nezeba, Medaleg, Alearim, Kapetz, Alakvaot, et dans la liturgie pascale juive, on associe le cantique des cantiques. La voix de mon bien-aimé, je l'entends qui vient, bondissant sur les collines, sautant sur les montagnes, de la crèche à la croix, etc.